Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betsson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et... je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betsson. Télécharge l'appli Betsson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il m'a manqué aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième. Ou inversement, mon premier, mon troisième. Ou inversement, mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi ? C'est dans les 3 ou dans les 5 ?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Il est 22h02 précisément, vous êtes sur RMC dans l'After, on est ensemble comme chaque soir jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, toujours parmi nous, qui était là avec les drôles de dames. Salut Daniel, rebonsoir Daniel.
Salut les amis.
Flo Gautreau également est parmi nous.
Je dis au revoir à Yann Crochet, tu
peux si.
Ah, bien vu, j'ai bien vu ce que t'as fait.
Mais j'aime pas quand tu parles comme ça Yann,
c'est
mon Yoann, j'aime pas vous voir parler tous les deux. Bonsoir Flo Gautreau.
Salut à tous, salut aux amis du bémol.
On vous attend comme d'habitude au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. On a J-2 du choc au MPG en 8e de finale de Coupe de France et qui sera à suivre sur RMC. On a des places à vous faire gagner, les toutes dernières pour assister à la rencontre. On vous explique ça dans quelques instants. Avant, au sommaire, au programme de ces deux heures, au lendemain de la défaite de l'OM face à Nice, Flo va lancer un appel à Igor Fudor. Redeviens toi-même, remets ton costume de bad cop. Ouais. Il aime bien ça, Flo. Et avec cette défaite de l'OM, le PSG leader avec 8 points d'avance. Daniel Riolo a un avis tranché sur la sortie de Galtier, alors qu'il a demandé à son équipe de jouer pour Messi. On le réécoutera, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à l'issue de la victoire face à Toulouse de ce week-end. Et puis le coup de gueule des Lensois contre l'arbitrage après leur nul à Brest. Savoir qu'ils ont réagi de façon plutôt originale, créative, les Lensois. Le Racing a-t-il raison de se plaindre, 32-16? Et puis les infos de Lens, Lyon, Lille à J-2, J-3 des 8e de finale de Coupe de France. On vous attend donc au 32-16. Avant d'ouvrir les débats, il y a de la Ligue 2 également ce soir. 22e journée, match entre Amiens et Metz. Et match qu'on suit, qu'on vit avec Jean Baumel. Salut Gibo.
Salut Nico, salut Daniel, salut Flo.
Salut.
1-0 pour les Messins, but sur pénalty, un peu contre le cours du jeu. Faute stupide de Poku dans sa surface de réparation et transformé donc par le Géorgien. Voilà, pour l'instant, la bonne opération, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour Metz.
Beaucoup, hein. Du coup.
Pardon ?
Non, rien.
Oui, en fait, avec le retour, je pense, t'as fait un jeu de mots avec Opoku. Donc, pour l'instant, la bonne opération, forcément, c'est pour Metz, puisqu'ils reviennent à 3 points du deuxième. On rappelle que les deux premiers, montent en Ligue 1 et rien pour les autres, pas de barrage, puisqu'il y a 4 descentes en fin de saison. Donc, il reste une petite demi-heure. C'est Metz qui mène ici à la licorne 1-0.
Et avec Gibo tout à l'heure, on fera un point également au niveau de l'actu concernant Lens et Lille avant les matchs de Coupe de France et après les matchs de championnat. Juste avant ça, J-2 avant le choc au MPG en 8e de finale de Coupe de France. RMC vous offre les toutes dernières places pour cette magnifique affiche. Dès que ce son retentit, Daniel Colores, nous le met.
À un moment, j'entends ça, je n'appelle pas déjà.
Oui, mais c'est à Marseille le match. Tu veux quand t'y aller ou pas? De toute façon, les supporters du PSG, on va en reparler, ils sont interdits de déplacement. Dès que vous entendrez ce son, donc, vous aurez 5 minutes pour tenter de remporter vos places pour OM-PSG mercredi en envoyant foot au 7-32-16. Voilà, foot au 7-32-16, ça peut tomber n'importe quand dans la journée. Hein,
un hommage à Van Halen, prends-le comme ça.
Ouais. Non.
Mais toujours pas? Non.
Sauf que c'est pas le meilleur hommage à Van Halen parce que c'est un guitariste.
Je détestais ce groupe et ce genre de hard rock de bande FM. C'était vraiment ce que je n'aimais pas en musique.
Sauf que ce qui est marrant.
Au-delà de la symbolique, rien à voir. Là, je fais juste à aparté musical, vraiment. Van Halen,
ce titre, en fait, est un peu particulier chez Van Halen parce qu'en fait, ce qu'on entend, c'est les claviers alors que Van Halen était connu pour être un très bon guitariste.
Les vieilles guitares électriques stridentes, hein. Oh là là.
Hier soir, l'OM justement a perdu au Vélodrome face à Nice. Marseille qui avait plus perdu depuis novembre dernier. L'OM qui a 8 points du PSG qui l'affrontera donc en 8e de finale de Coupe de France ce mercredi. Tudor qui a un peu fait tourner en vue de ce choc. Avis tranché de Flo Gautreau qui concerne Tudor justement.
Salut à tous, c'est Gilbert Bribois. La boucle d'oreille de Maradona a jugé 25 000 euros.
Alors Tudor qui avait aligné Dimitri Payet titulaire hier face à Nice, qui est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs en cette année 2023. Et toi, tu veux lancer un appel à Igor Tudor
Oui, parce que je pense qu'en fait c'est la défaite de Tudor hier. On a suffisamment censé son travail depuis le début, mais Tudor s'est un peu égaré. Il a effectivement, bizarrement, de par sa compo enjambée, enfin signifiait qu'il pouvait un peu enjamber ce match contre Nice. Je dis pas qu'il l'a négligé, mais ça donnait l'impression que son équipe type, tu l'as dit dans ton lancement, bah il se l'a réservé quand même pour le match suivant et ou pour les matchs suivants et notamment le match contre le PSG. Et puis effectivement, je dis à Igor Tudor, redeviens toi-même parce que j'ai l'impression que depuis qu'il s'est entre guillemets humanisé, alors que Flo Germain nous a suffisamment expliqué le fait que il est très dur, mais il aime aussi se montrer très dur, c'est-à-dire qu'il en fait un argument managérial depuis le début et son arrivée à l'OM, une sorte de carapace très forte. On se souvient de sa résistance aux critiques là en début de saison, du fait qu'il avait mis Payet justement sans ménagement et sans justification auprès notamment du joueur sur le banc, qu'il avait fait pareil à l'entraînement avec d'autres joueurs, Gerson qui avait eu pas mal de soucis comme ça. Il avait en gros assis son autorité. Et puis on a découvert un autre Tudor, un peu plus souple, un peu plus câlin avec Unai. On l'a découvert sur une interview d'après-match en zone mixte, non pas en zone mixte, alors sur le terrain, venir faire une accolade à Unai. Et puis avec, et c'est pour ça que je lui dis, j'avais ce message pour lui, cette diatribe assez étonnante la veille donc du match où il a expliqué que pourquoi il allait titulariser Payet, tout en disant au début de son intervention qu'en gros Payet ne collait pas avec son football, ce qui était assez clair et franc de sa part. Mais la conclusion de sa phrase était assez étonnante en disant, en gros, pour service rendu,
oui,
pour
se comporte bien, donc je récompense.
Pour bon comportement, je caricature un peu évidemment. Eh bien, je vais titulariser demain Dimitri Payet. Bref, ça c'est pas du Tudor. Le Tudor qu'on avait connu, c'est bah, quelles que soient les conditions. Et si je pense, et notamment contre Nice, qui est, et on en a parlé la semaine dernière, un concurrent, enfin un adversaire important et en forme. Eh bien, tu dois mettre entre guillemets ton équipe type, et surtout. J'ai été étonné aussi, c'est pour ça que je dis que c'est la défaite de Tudor, aussi de la gestion de l'attaque, parce que de mettre Vitinha tout de suite titulaire et seul en pointe et ne pas l'associer à Alexis, ne pas mettre Alexis Sanchez qui est en forme, je pense que Tudor a déjoué parce qu'on ne peut rien reprocher aux joueurs de l'OM sur ce match. Sur ce match, moi pendant la première demi-heure, avant que d'ailleurs Nice ne marque.
Mais d'ailleurs il a assumé à la fin du match, hein. Il a dit c'est ma défaite, hein. J'ai rien à reprocher à personne.
Bien sûr, et c'est vrai que j'ai cherché après à me dire, oui tu peux reprocher des choses à Payet bien sûr, mais il a donné la solution avant le match Tudor, il a expliqué pourquoi Payet ne collait pas système. En revanche, le pressing très haut, Mbemba qui était partout, on a l'impression que l'OM était en train d'asphyxier Nice et on se demandait comment ils allaient se faire remanger. C'est la défaite de Tudor, donc la compo, la gestion du vestiaire, cette sensation un peu plus émolliente entre guillemets dans son discours, qui correspond d'ailleurs à des matchs où l'OM a raté sa première période. C'est aussi une petite rengaine récente. Ça fait beaucoup effectivement pour ce match-là. Et puis enfin, il y a une chose qui est un peu indépendante de sa volonté. Évidemment, il y a des équipes qui commencent à trouver un peu la parade. Par exemple, hier, avec, il faut avoir les joueurs pour, des joueurs capables de prendre le ballon, de le porter et de franchir les lignes marseillaises très vite, sachant que lui, derrière, il assume le déséquilibre et le jeu en un contre un en défense. Évidemment, à un moment ou un autre, ça peut et ça pouvait déjà arriver à l'OM. C'est pas forcément très grave. Sauf qu'hier, après avoir été mené, de par cette compo un peu erratique, l'OM a pris les deux buts d'écart qui rendent quand même le système compliqué, parce qu'après ils ont fait une bonne entrée de deuxième période, ils sont revenus à 2-1, mais il y a des moments c'est un peu compliqué. C'est la défaite de Tudor, et je pense que Tudor n'est pas tout à fait celui qu'il a été en début de saison, et que c'est peut-être aussi pour ça que l'OM a perdu hier.
Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. Ton avis, Daniel, là-dessus, est-ce qu'il est devenu finalement trop gentil, Igor Tudor, alors?
Écoute, je sais pas, je suis pas fondamentalement contre l'avis de Flo, j'entends, je voulais peut-être aller plutôt prendre une autre piste que Flo commençait à aborder dans la fin de son avis et essayer de regarder finalement ce que fait l'OM depuis le début de la saison. Hier, ils se sont plantés, ça a été assez retentissant parce que c'était un gros match et parce que ce qu'ils produisaient ces dernières semaines était tellement intéressant qu'on avait fini par dire, voilà peut-être un client pour contrecarrer les plans du PSG. Il suffit qu'on le dise pour qu'il soit à 8 points et qu'on finisse par croire aujourd'hui que bon bah finalement on a peut-être vu trop grand pour cette équipe. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira, on verra bien. Il vaut mieux que l'OM se focalise sur sa saison et sur son objectif de finir sur le podium, d'être en Ligue des Champions encore l'année prochaine. Donc je reviens à ce que disait Flo. Effectivement, bon ça on a bien compris depuis le début. Tudor, effectivement le caractère tu l'as décrit. Après ce qu'il veut dans le jeu et on l'a vu hier, bah c'est une prise de risque avec souvent du 1 contre 1 derrière, voire de l'individuel qui est forcément risqué. un déséquilibre parce que tu te projettes énormément. Parfois, ton dernier défenseur, il est à 40 mètres des buts de l'adversaire, pas à 40 mètres de tes buts à toi. Ça, c'est rarissime. Là encore, c'est risqué. Il y a une prise de risque généralisée, assumée. Et il a sorti une phrase à la fin que j'ai trouvée assez intéressante. Il dit finalement, prendre 3 buts par rapport à ce qu'on a concédé, c'est beaucoup. Marquer 1 but par rapport à ce qu'on a créé, c'est peu. Ça peut paraître tout con cette phrase, mais en fait c'est un petit peu comme si ça ressemblait à quelque chose, son édifice un peu de fragile, ou en tout cas quelque chose qui dépendait des individualités que tu as sous la main, plus que de ta production collective. C'est pour ça qu'il dit, je peux rien reprocher aux joueurs dans la production collective. Néanmoins, et on l'a fait dès hier soir, et tu pourras pas dire le contraire Flo, on va dire les 2 premiers buts, notamment le deuxième parce que l'image elle était extrêmement flagrante, le retour de Mendes c'est difficile, ce que fait Payet, bah tu l'as dit, c'est parce que tu veux plus le voir sur le terrain parce qu'il est pas fait pour ce jeu-là. Donc tu es obligé de pointer quand même des individualités.
Oui, mais les individualités, donc, en gros, qu'il a mis sur le terrain,
ouais, en l'occurrence, absolument, pour Payet. Dans son choix, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vais te rejoindre en disant collectivement ce que produit l'OM. Moi ça continue de me plaire beaucoup, et c'est vrai que ça dépend après de si tes attaquants ils marquent pas parce qu'ils sont inefficaces, si tes défenseurs se déchirent parce que soit ils reviennent pas, soit ils ont une faute d'inattention, bah ouais, tu vas payer cher, et ils ont payé cher, et ils ont payé cher hier. Alors, ce que ça m'a poussé, ce constat, ce que ça m'a poussé à faire, c'est de regarder un petit peu finalement ce que faisait l'OM contre les gros. Ce que beaucoup disent, j'en ai parlé avec Jérôme, notamment Roten aujourd'hui, quand on faisait notre petite vidéo Winamax sur les paris. Il dit, ouais, mais regarde, contre les gros, finalement, ce système-là, quand t'as une équipe qui a des individualités fortes techniquement, capable de ressortir les ballons, ils vont te déchirer, ils vont partir dans ton dos, et ça va te causer des soucis. Évidemment, il a pas tort, on l'a vu hier, Nice avec des qualités et de la réussite, a fait très mal à l'OM, comme Monaco avait fait mal à l'OM dans la première période, mais néanmoins, et c'était un gros match, dans la deuxième, l'OM est fort et peut gagner s'il n'y a pas ce que je considère être une mauvaise interprétation avec le tacle, mais bon, le 1 partout, ok, prenons. Le bilan, vous regardez les gros matchs, chacun évaluera ce qui est un gros match, mais quand ils ont joué contre le PSG, contre Monaco le match aller, ils ont gagné, contre Lens ils ont perdu, ils vont rejouer, contre Rennes ils ont fait un nul, une victoire.
Et la Ligue des Champions.
Contre le PSG ils ont fait un très bon match qu'ils perdent et c'était serré. En Ligue des Champions, moi je trouve que ça manque de sérénité. Contre le Sporting, c'était un gros match, c'est le Sporting qui s'est mis dedans tout seul, ils l'ont gagné. Contre les Spurs, les deux fois ils perdent et les deux fois ils donnent l'impression quand même de faire un bon match. Donc est-ce que au fond, l'OM doit changer quelque chose? Gagner en sérénité pour que t'aies pas l'impression qu'à force de faire des efforts, les mecs ils aient le cerveau en marmite à un moment, ce qui fait que tu peux aussi rater des occasions quand tu à force à un moment t'étais en apnée.
Est-ce que c'est pas un problème d'effectif, parce que au final en Ligue des Champions, ils perdent parce qu'ils jouent tous les trois jours. Et là, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc,
pas forcément d'effectifs de nombre, mais peut-être
en
aussi
qualité et en profil de qualité, joueurs.
Quand tu veux avoir cette ambition-là, et ça rappelle un peu la saison de Bielsa. Ouais. Bielsa aussi, il assumait tout le déséquilibre.
Sauf qu'on a dit un peu l'inverse depuis ce mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'autant c'était un argument qu'on pouvait entendre en début de saison, sauf que là, on trouve que qualitativement, ils se sont encore bien renforcés, et qu'on se disait là, non seulement ils jouent plus tous les trois jours, mais en plus ils ont Unai.
Mais peut-être qu'ils auront récolteront les fruits.
C'est pour ça
ils
que...
récolteront peut-être les fruits dans les semaines à venir. Ouais, là où il y a eu une erreur, et tu l'as souligné hier, c'est que l'effectif, il a voulu en pensant au match du PSG, il a voulu justement se servir de sang frais. Et le sang frais, c'est certainement pas le Payet, le sang frais. Et Vitinha, il était certainement pas prêt à être lancé tout de suite. Donc là, il y a eu erreur sur le choix des hommes. Mais quand je parlais de renforcer, peut-être également en qualité, quand tu veux jouer effectivement, parce que Liverpool aussi, à un moment, ils prenaient des risques de dingo quand ils jouaient haut, là, leur football, hard rock football, machin. Sauf que derrière, quand t'as un Van Dijk qui assume le 1 contre 1, parce que en 3 courses, il te met la main sur l'épaule de l'attaquant, il dit bouge pas petit. Et effectivement, eux aussi, ils prenaient beaucoup de risques. Mais si devant, à l'époque, t'as Mané, Salah en pleine bourre, qu'il a moindre occasion ou frappe, ça fait lucarne ou ça fait but, ça compte beaucoup quand tu veux jouer de cette façon-là. Donc au final, est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il faut dire « Ah, mais attention, les risques que vous prenez et tout ?» Moi, je dis « Surtout pas. » D'abord parce que c'est mon avis perso, mais c'est le football que j'aime. Deux, regarde Arsenal qui fait une saison extraordinaire. Ils perdent quand eux aussi, c'est un football où il y a prise de risque. peut-être pas exactement de la même façon, mais en tout cas, il y a un football protagoniste qui va de l'avant, qui prend des risques. Bon, ben voilà, ils se sont fait déchirer par Everton, qui est une équipe un peu en bois cette année. City, ça leur arrive souvent. Mmh. Combien de fois on a dit, ah, City, en Ligue des Champions, vous êtes pas assez solide, faut faire attention, machin. Bon, ben voilà, c'est des choix de football. Est-ce que forcément tu gagnes en ne jouant pas comme ça ou en jouant autrement? J'en suis pas convaincu non plus.
Mais là moi je pense que justement juste le débat, c'est pas franchement effectivement de changer, parce que moi effectivement je suis d'accord. J'ai même pensé à un moment donné qu'ils allaient asphyxier les Niçois. Je trouve qu'ils faisaient comme d'habitude.
Bah, c'est le management.
Le management, d'autant que il a maintenant un banc comme ça. C'est-à-dire que ne pas commencer par exemple, quitte à lancer Vitinha. Moi je pense que Vitinha fallait lancer plus tard dans le match, en faire ton attaquant.
Comme il a fait avec Unai à Nantes.
Exactement.
Le faire rentrer plus tard.
Les mecs font le job, font le boulot, et toi derrière, tu essaies d'apporter sans pression.
Ouais, je suis d'accord.
Avec moindre pression.
C'est une vraie erreur.
Là, tu dis à Vitinha, c'est toi qui joues, et en plus, tu joues seul. Moi, je pense que, on l'avait dit avant sur Vitinha, il peut mieux jouer à deux. Si tu fais Alexis Vitinha et que tu mets pas Payet, déjà, t'as pas la même équipe, et t'as plus de chances de transformer tes occasions. Et pour terminer juste sur le point de Daniel, je pense qu'effectivement, qualitativement, l'effectif est pas mal, mais que s'il y a un endroit où il faut le renforcer, sachant que t'as un contre un derrière, c'est derrière. T'as Mbemba,
allez.
T'as Gigo pas mal, mais Balerdi par exemple, parfois insuffisant, même si moi j'aime bien ce joueur. Je pense que dans ce style de jeu, il faut des gars très 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 fiables.
On vous rappelle, Balerdi et Bailly qui sont suspendus.
C'est beaucoup de mousse, mais parfois.
Pour le match face au PSG, ce sera mercredi. On poursuit les débats dans quelques instants. Vincent nous a appelé au 32-16. On est avec Daniel Riello, avec Flo Gautreau dans l'after. On vous rappelle qu'il y a des places à gagner pour OM-PSG. Dès que vous entendrez le son de Van Halen, vous aurez 5 minutes pour envoyer foot au 7-32-16 et pour tenter de remporter des places pour le 8ème de finale de Coupe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
Accompagné de Flo Gautreau et de Daniel Riolo, on est à J-2 du match entre Marseille et le Paris Saint-Germain, 8ème de finale de Coupe de France que vous vivrez sur RMC. Avis tranché de Flo Gautreau il y a quelques instants. Igor Tudor, remets ton costard de Bad Cop. On vous attend en 32-16, supporters de l'OM, pour réagir. Juste avant cela, petit détour par le stade de la Licorne avec Jean Baumel. Amiens-Metz.
Ça fait deux pour les Messins. Corner bien tiré, premier poteau, déviation d'Ata. Arthur Ata qui touche le poteau et ça rentre, et ça fait donc 2-0 pour le FC Metz à 10 minutes de la fin. Même si Amiens pousse, Amiens se fait bien avoir sur cette rencontre, c'est la superbe opération. Et pour les Lorrains qui, avec Laszlo Bologna, 70 ans quand même, je ne pensais pas qu'il était aussi vieux, le coach roumain, reviennent à 3 points de la deuxième place au show. Donc voilà, il reste 10 minutes pour réagir aux Amiénois, mais ça semble compliqué.
Merci Gibault. On accueille Vincent, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Vincent.
Salut tout le monde.
Salut Vincent.
Alors Vincent, qu'est-ce que t'as pensé de l'avis de Flo? Est-ce que t'es d'accord avec lui? Est-ce que tu trouves que finalement il est un peu trop mielleux en ce moment, Igor Tudor à l'OM?
Moi je pense que c'est plutôt un excès de confiance. Daniel a raison, jusqu'à présent ça roule, ça marche un peu sur l'eau, ça développe du beau jeu, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, etc. etc. Et puis quand on se retrouve face à une équipe qui... contre qui on peut faire un bon résultat et se rapprocher du PSG, et ben on se la joue un peu cool, on dit bah tiens, on va faire plaisir à Payet, on met sur le terrain, on fait débuter le petit, il va faire un bon match, etc. Alors qu'en fait c'est complètement l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu assurer nos arrières. Et puis effectivement, si en deuxième période on mène de 1 ou 2 buts, et ben là on peut faire jouer un peu tout le monde et sans trop prendre de risques. Sauf que là, on s'est vu trop beau et je pense que c'est un peu dommage parce que on a perdu l'occasion de se rapprocher de l'objectif qui est officieux, c'est-à-dire d'aller chercher une deuxième place et d'aller chercher le PSG à la première, quoi. Donc c'est très dommage parce que dans le contenu, il a raison aussi, Tudor, on peut rien reprocher aux joueurs, ils ont fait leur match. Par contre, Guigard, il a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il a su rebondir et je pense que sa composition, elle est en fonction de celle de l'OM. Quand il a vu qu'il y avait Payet et Vitinha, il a dit bah vas-y, on va tout jouer sur nos atouts et puis on va mettre le pressing super haut et puis Marcus Thuram il va faire le taf. À chaque fois qu'il a une possibilité, il met une galette, il met une frappe et advienne que pourra. Et voilà, ça a marché.
T'es dans quel état d'esprit toi avant le match de mercredi là? T'es confiant ou pas plus que ça?
Moi, très sincèrement, je m'en bats les couilles. Enfin, pardon. je m'en fous du match de la Coupe de France. C'était un objectif.
Je comprends pas comment tu peux t'en foutre.
T'as pas gagné de titre depuis 10 ans, Vincent.
Non, mais c'est peut-être un objectif, mais au final, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le championnat, d'aller chercher la deuxième place, voire même la première, aller chercher la Ligue des Champions pour l'année prochaine et maintenir ce niveau de jeu qu'on a jusqu'à présent. Etc., etc. Moi, la Coupe de France, c'est pas un objectif pour moi. Ça fait X années qu'on la gagne pas. C'est pas pour aujourd'hui. Non, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que
c'est un avis étonnant, ça. Mais bon, écoute.
Non, mais c'est peut-être un avis étonnant, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat et ça restera le championnat. La Coupe de France, c'est sympa à gagner, mais c'est
tu gagnes la Coupe de France en éliminant en route le PSG. Non, tu vas pas triper. Tu vas pas triper.
Et puis rien t'empêche de finir deuxième aussi.
Non, mais attention. Je serais hyper content qu'on batte le PSG et qu'on aille en finale et qu'on gagne la finale, etc. Qu'on ait un titre. Je serais hyper heureux. Il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est pas ce que je recherche. Ce qui m'intéresse, ça reste encore une fois le championnat.
Mais c'est-à-dire, c'est quoi le championnat, Vincent? Moi, c'est ça que je comprends pas.
Bah, c'est le championnat, c'est de faire un truc. On est.
Finir deuxième, c'est pas un truc.
C'est deuxième.
Non, mais justement, là, on a la possibilité de. On a l'équipe, on a l'effectif, on a le banc d'aller chercher le titre officiellement sans se cacher. On peut le faire. Donc, je préfère qu'on fasse un match moyen en Coupe de France à le perdre, même en jouant sérieusement, mais à le perdre. Et derrière, aller les claquer le 26 plutôt que l'inverse.
Et pourquoi pas les deux? Moi, c'est ça le truc, surtout, moi, que je.
Bah, laisse-le, c'est un choix, laisse-le tranquille aussi. C'est vrai que tu poses des questions.
On peut faire les deux, Vincent, tu peux finir deuxième et gagner la Coupe de France.
Et tu te poses des questions,
bien sûr, encore une fois, ça me plairait. Mais très sincèrement, la Coupe de France.
Il est réaliste. Il sait qu'il va pas gagner les deux matchs, laisse-le.
T'as dit que c'est plutôt.
Mais bien sûr,
du style. Si tu avais à choisir. Si t'avais qu'une victoire sur deux, tu prendrais laquelle?
En fait, tout à l'heure, il fait un tu préfères.
Ouais, c'est vrai.
Je prendrais le championnat.
Voilà, on a compris là maintenant.
Parce que c'est vrai que statistiquement, se dire que l'OM va battre les deux fois le PSG, pas évident non plus.
C'est-à-dire
que tu bats deux fois le PSG.
Tu bats le Vélodrome, on s'en souvient à peine.
Tu bats le PSG en championnat, tu reviens encore en hauteur.
Tu te remets dans le jeu.
Tu te remets dans le jeu, mais t'es encore loin quand même. Il y a 8 points, les gars. Il y a encore 5 points.
C'est pour ça qu'il faut prendre chaque point ou là on peut les prendre.
Ok. On a compris.
Pour moi, oui.
Ok, Vincent.
Merci, Vincent.
Merci d'avoir été avec nous, Vincent.
Plaisir.
Bonne soirée, à bientôt, Vincent.
Après, un truc que va devoir gérer l'OM. Dans la foulée de ce qui s'est passé hier, c'est aussi ces équipes comme celles qui face au PSG maintenant se disent c'est vraiment possible. Maintenant c'est le cas face au PSG. Hier Nice a montré qu'il y avait des solutions face à l'OM. Alors on le sait, on le voit parce qu'il y a le déséquilibre dont parlait Daniel tout à l'heure. Mais ils ont montré aussi, j'insiste, avec ces porteurs de ballon, ces franchisseurs de ligne. Alors évidemment, il faut avoir des joueurs capables de le faire.
Il faut des joueurs pour le faire. Mais dès que tu crées toujours du danger contre l'OM. Mais après, tout le monde a des points faibles. Ouais. Quand tu joues contre le PSG, tu sais aussi que si tu presses, si t'es capable de récupérer le ballon et de jouer vite en transition, les défenseurs sont pas assez bons.
Différence, c'est que
tu peux souvent les prendre de vitesse.
Ah oui. Mais le PSG, tu le sais, parce que si tu sais que si le PSG, ce qui est souvent le cas en ce moment, ne met pas d'intensité, tu vas en plus pouvoir les mettre minables.
Si t'as de la qualité devant, tu vas leur poser des problèmes.
Alors que jusqu'à présent, tu te faisais manger et tu voyais pas trop la possibilité, même si tu le savais, qu'il y avait des 1 contre 1. C'est vrai que Monaco l'avait bien montré. Voilà, ce que Nice a fait hier, c'est aussi quelque part intéressant pour la suite. Mais il y a un avantage, il y a toujours un avantage dans une défaite. Je pense que s'il y a eu un tout petit peu de relâchement, s'il y a eu un tout petit peu de volonté de sauter, d'enjamber ce match en pensant un peu aux autres derrière, toutes ces petites choses qu'il ne faut pas faire, je pense que ça va servir comme d'alerte pour tout le monde, pour Tudor en premier, pour ses compos, pour ses débuts de match aussi parfois, ses premières mi-temps qui parfois ont été moins bonnes. On dit à chaque fois d'ailleurs, Tudor il a dû leur remettre une sacrée à la mi-temps, il a changé au moins un joueur, mais il a fait plusieurs changements ensuite. Je pense que voilà, c'est une défaite qui peut faire du bien à l'OM dans le moment qui arrive.
Dans quelques instants, des infos concernant Lens et Lille qui joueront également leur 8e de finale de Coupe de France. On fera ça avec Jean Baumel qui nous fait vivre le match entre Amiens et Metz. Ça bouge pas, Gibo, toujours 2-0.
On va voir le 3e pour Metz, le poteau de Savali qui sauve Régis Gartner. Je pense que Amiens va perdre chez lui avec ce score au moins de 2 à 0. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire.
Ouais, et dans quelques instants, on entendra Francaise qui a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage après le match nul de son équipe à Brest. Et puis vous allez écouter également une petite prod qui a été faite par le Racing Club de Lens pour se plaindre de l'arbitrage, que vous retrouvez notamment sur les réseaux sociaux. Supporters de Lens, on vous attend avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo au 32-16. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
22h33, vous êtes sur RMC dans l'after avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. Vous êtes également sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Tiens, il y a Bruno qui nous écrit par exemple battre deux fois le PSG, c'est possible vu le jeu du PSG et ses absences. Voilà, il y a pas mal de réactions également. Tout à l'heure, on aura un avis tranché d'ailleurs de Daniel, notamment sur la sortie de Christophe Galtier concernant le style de jeu et le tout joué pour.
Par rapport à ce que dit le message. La seule réserve dans l'idée que l'OM peut battre deux fois le PSG, c'est juste que le PSG a des individualités qui sont tellement fortes, et encore devant, il lui manque Mbappé. Mais que quant à Messi et Neymar, le truc c'est toujours de te dire, bon bah oui, ces gars-là sur un geste peuvent toujours faire un truc, mais collectivement sur ce que tu proposes, évidemment que l'OM a largement les moyens de battre le PSG qu'on voit depuis le retour de la Coupe du Monde. Et c'est un PSG qui, n'importe quelle équipe moyenne, le met en danger. Donc pourquoi l'OM le ferait pas non plus? C'est juste que tu ne te risques pas à ce genre de pronostic, parce que tu te dis, bah regarde le match contre Toulouse au Parc, t'as un ballon qui traîne en entrée de surface, Messi il t'envoie une frappe là, bim, dedans. Neymar va revenir là. Bon, il a digéré son anniversaire là, maintenant il est tranquille, là, il a fait la fête samedi soir. Ah oui, d'ailleurs, parenthèse, j'ai lu partout que il avait fait la fête tranquillement chez lui et tout. Non, pas du tout. Il a fait une grosse soirée où il y a pas mal de joueurs du PSG dans un établissement qui s'appelle le Bonny à Paris. Et voilà, je sais pas pourquoi les gens veulent qu'il reste tranquille. Il reste pas tranquille.
Ouais, tu peux faire une soirée à l'extérieur, il est tranquille.
Évident. Ouais. Non, bon, j'ai vu quelques photos, il était pas très frais. Bon, en même temps,
il a fini avec Clyde.
Ah, écoute, ça,
avec Bruno, apparemment, ils se sont remis ensemble.
Oui, ça y est, c'est la grosse actualité du moment. Bref, un type comme ça qui a vraiment envie de jouer, bah, tu l'as vu à la Coupe du Monde, il est capable. Le tout, c'est de savoir à quel moment ils ont envie de bien jouer collectivement au PSG ensemble. C'est ça qui fait que tu ne peux pas envisager que cette équipe perde. Après, malheureusement, les prestations récentes, elles sont tellement catastrophiques que moi, si j'étais Marseillais, j'y croirais à 100%.
On va revenir sur le PSG dans quelques instants. Juste avant ça, on va parler un peu de Lens également. Ça a de l'eau du résultat du week-end. Nul de Lens à Brest, un partout. Alors, match marqué par des décisions arbitrales de Benoît Bastien qui ont beaucoup agacé les Lensois, à commencer par Francaise après la rencontre. On va écouter. Francaise. Il est là, Francky.
Tranquille. Il y ait débat à la limite sur le pénalty pour nous, sur la main de Belkebla. Je pense que c'est un geste naturel. Moi, un bras qui monte comme ça, c'est pas tout à fait naturel, mais il peut toujours y avoir débat, pourquoi pas. Je pense que sur l'action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction et qui ensuite amène l'action du contre et du centre. Donc, main offensive, jusqu'à preuve du contraire. Elle doit être sifflée. Elle l'a pas été. J'ai demandé qu'on voit la VAR. Non, c'est checké. On me dit même que le joueur est au sol. Il est jamais au sol. La main est pas au sol. Donc, c'est même pas ce qui s'est passé. Et puis après, on a un joueur aux urgences aussi, sur un tacle, j'estime, très limite, qui vaut au moins un jaune, ce qui aurait été le deuxième à 30 minutes de la fin.
Alors si c'est assez finalement visuel ce que raconte Francaise, mais il décrit pas mal les actions. Si vous avez pas vu, vous allez sur les réseaux sociaux du Racing Club de Lens qui a fait une compile avec toutes les actions justement litigieuses de cette rencontre. Et voilà ce qu'ils ont produit, le RCL, même au niveau sonore, c'est plutôt marrant ce qu'ils ont fait sur un mode KDO. Écoutez.
La compile de la VAR oubliée. Il préfère le hand au foot, c'est Jean-Michel Sajou. Oh, c'est Jean-Michel Papineau.
Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, c'est facile.
Il n'aime pas la couleur jaune, c'est Jean-Michel Pâte-Carton. La compile de la VAR oubliée, malheureusement, déjà dans les bacs.
pas mal ce qu'ils ont fait, les Lensois. Oui, oui, ils prennent ça à la dérision,
une,
finalement.
Une communication très originale. Bon, après, la dérision a des limites parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien énervés.
Ouais.
Comme ils sont dans une sale période et qu'ils ont dorénavant de grosses ambitions, bah, ils sont un petit peu comme tout le monde. Ils pleurent sur l'arbitrage. À juste titre, il y a eu des moments peut-être où ça a mieux tourné pour eux. Et là, ils font un petit peu ce que font beaucoup de clubs quand ça tourne pas dans le bon sens. Ils se plaignent. Là, c'est difficile de leur donner tort. La semaine dernière, c'est Longoria qui a pété un câble sur le tacle. Merde, qui c'est qui s'est fait nettoyer la cheville, là, j'ai oublié. Bon, c'est Colasinac qui s'est fait démonter.
Et avant ça, il y avait eu la sanction vis-à-vis de Bailly aussi. Bon, même si là, c'est un détail administratif.
Ouais, voilà.
Alors, Jean Baumel est toujours avec nous. D'ailleurs, c'est fini, Gibou.
Ouais, 2-0 pour Metz.
À Amiens. Voilà, victoire de Metz, donc à Amiens qui passe.
Le Metz devant. D'Hélène Schroub.
Ouais, exactement. Gibou, on évoquait justement les Lensois.
Bon, il ne veut toujours pas parler. Ouais. Madame Schroub, il faut parler. Vous êtes au Comex.
Ils sont très remontés, les Lensois. Ils prennent ça avec la dérision, mais c'est vrai, comme disait Daniel, on sent qu'ils sont un peu en mode vénère quand même, les Lensois. Hein.
Bah, ils veulent marquer le coup avec des images plutôt que de faire un communiqué qui aurait été moins sympa. Et là, on aurait pu dire ouais, c'est des pleurnichards. Voilà, c'était histoire de marquer le coup que voilà, Lens est un club sympa, mais voilà, trois erreurs d'arbitrage sur leur match, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que quand on n'est pas très bien en ce moment, même si quand on regarde le parcours de Lens, hein, c'est plus de 2 points par match. C'est quand même assez dingue pour un club qui a, rappelons-le, hein, que le 12e budget de Ligue 1. Mais c'est vrai, comme le dit Daniel, ils ont des ambitions. Ça revient derrière, devant ça s'éloigne. Bon, je pense pas qu'ils imaginaient être champions, mais c'est vrai qu'il y a de grosses ambitions et ne pas être européen, je pense, ne pas finir dans les 4, au moins être directement, tu vois, 4e, directement en phase de poule de la Ligue Europa. Ouais, ce serait une déception. Donc voilà, s'ils sont dans un moment un petit peu moins bien, ils ont du mal à marquer. C'est ça leur gros souci en ce moment. Ça reste quand même la meilleure défense du championnat, faut pas l'oublier. Hein.
Oui, je pense quand même que c'est pas très audible, parce que là on est en train de passer un petit peu ce qu'on ne passe pas aux autres. On le passe à Lens parce que c'est Lens, parce qu'ils sont plutôt sympas, parce que Aize on l'aime bien. Or, et parce que la prod est bien faite et elle est plutôt marrante, donc moi j'aime bien ça, je trouve que l'humour est pas mal. Mais je pense que tout coach qui fait ça, ce qu'a fait Aize, est à côté. Quand ton équipe, et là Gibo l'a dit, n'arrive pas à marquer, les mecs sont moins bien. Fofana est moins bien, Openda est moins bien. Ils sont tous moins bien. Ils ne marquent pas contre eux. Enfin, ils marquent, mais ils marquent un but contre trois, zéro contre Nice et un contre Lens, contre Brest, pardon. Voilà. Et puis, sans parler du nombre de buts, il suffit de voir dans le match, Lens a du mal à marquer. Si tu es entraîneur, si tu penses que tu perds, tu ne gagnes pas le match uniquement à cause des décisions d'arbitrage, c'est une erreur.
Non, mais là, t'as quand même un mec à l'hôpital.
Je pense qu'il veut marquer le coup.
Ce que je veux dire, c'est que sur une saison, si tu veux jouer comme eux, et c'est le cas, le tableau, évidemment, tu tombes dans les mêmes. En fait, ils retombent exactement dans les mêmes travers que le Jean-Michel Aulas de la grande époque. Voilà, que même que Longoria l'autre jour. Longoria sur Bailly. Qu'est-ce que tu. Même sur le club sur Bailly. Bailly, il a découpé le mec. C'était terrible. Il a pris une sanction comme en foot amateur. T'en prends très, très souvent. Donc, aujourd'hui, même si dans ce match, ponctuellement, tu peux trouver des choses à dire, je suis certain qu'on pourra trouver aussi dans la saison passée, dans cette saison, des moments où Lens n'a pas été désavantagé, au contraire, par l'arbitrage. Et je trouve juste que, et même si les faits sont exacts, qu'il y a d'autres raisons au coup de frein lensois.
Oui,
et ces raisons,
clair.
Elles sont liées uniquement au lensois et à leur façon de jouer. C'est une façon également très exigeante, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui a déjà parfois montré ses limites offensivement, parce que les joueurs aussi offensivement sont parfois un peu plus limités. Il faut le reconnaître avant de parler des erreurs d'arbitrage.
Ouais. Tiens, juste Gibo, une chose, parce que tu le disais, hein, ils sont un peu moins bien, les Lensois, en ce moment. Troisième match en succès, hein, avant d'aller à Lorient en Coupe de France et à Lyon. Ils sont troisième de Ligue 1, hein, cela dit, à égalité de points avec l'OM, avec 2 points d'avance sur Monaco seulement. Comment Lens se positionne par rapport à la Coupe de France?
Bah, la Coupe de France, c'est quand même le seul trophée que Lens n'a pas gagné. Donc forcément, le rêve, ce serait de l'emporter. Voilà, il y a plein d'équipes pro qui disent voilà, ça démarre à partir des huitièmes de finale. Là, ils ont pas un cadeau parce que c'est à Lorient et c'est un adversaire qui est intéressant, qui est pas simple, hein, et ça va être le retrouver entre Régis Lebris et Patrick Francaise, hein. Vous savez qu'ils sont très potes, hein, dans la vie privée, hein. Ils sont vraiment vraiment très 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 proches. Donc ouais, non, on sent que voilà, ils veulent aller loin maintenant. Voilà, c'est je pense que le championnat, ils espèrent surtout passer par là pour aller en Coupe d'Europe. C'est ce qu'il y a de plus sûr maintenant, la Coupe de France. Voilà, s'ils arrivent à le gagner, ce serait, voilà, Franquet serait le premier entraîneur du Racing Club de Lens à le faire. La dernière finale, c'était en 98 avec Daniel Leclerc, et ça s'est mal passé contre le PSG. Oui, forcément. Mais je, voilà, on n'en parle pas tant que ça à Lens. On est plus focus sur le championnat.
On accueille Norman, supporter du Racing, qui nous a appelé au 32-16. Salut Norman.
Salut.
Salut Norman.
Alors, comment t'as réagi, toi, ce week-end? Comment tu vis, toi, cette période, on va dire, un peu moins joyeuse pour Lens?
Ouais, je suis beaucoup plus pondéré que vous. Alors, c'est moi le supporter, mais alors là, je vais vous rafraîchir un peu quand même, parce que dire qu'on est dans une période de moins bien, que ça fonctionne pas, etc., on a un peu moins de réussite offensive. Maintenant, on fait quand même des matchs très corrects, on a des stats qui sont super intéressantes, l'équipe continue à produire du jeu.
T'es toujours à 2 points de moyenne par match, comme le disait Jean il y a 2 minutes, et il a parfaitement raison, le bilan est encore très bon, et tout le monde traverse des périodes un peu compliquées en ce moment. L'OM a perdu, Rennes est en train de glisser, il y a que Monaco qui discrètement semble s'être mis sur l'autoroute. Ouais. Mais pour le reste, il s'agissait pas pour nous de dire qu'il y avait panique à bord. C'est que quand t'es habitué à bien manger toutes les semaines, avoir une table bien garnie, quand t'as juste un bout de pain sur la table, t'es forcément un peu déçu. C'est juste ça, en fait. Et t'as pas envie, évidemment, que même le pain devienne rassis. T'as envie vite de retrouver tout le reste.
On peut pas être déçu, les gars. Il y a 3 ans, on n'arrivait pas à battre Orléans, donc on savoure. Donc il faut juste être raisonnable. On va pas finir champion de France en étant vaincu.
Je veux dire que tu serais pas, même si ce que tu dis est vrai, il y a 3 ans, machin, tu veux dire que quand t'es habitué à aussi bien manger, tu serais pas déçu de pas être sur le podium à la fin? T'as pas envie d'aller voir la Ligue des Champions de près?
Mais bien sûr que j'ai envie.
C'est tout ce qu'on disait, c'est que tu seras peut-être un peu déçu pour ça.
Mais non, mais après, dire que la com du club d'aujourd'hui par rapport à l'arbitrage est liée à un moins bien et que ce serait une espèce de camouflé pour un petit peu pas parler des vrais sujets, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que les matchs, si vous les avez regardés, 3, on doit gagner 15 000 fois, on n'a vraiment pas de réussite. Nice, pour le coup, c'est pour moi une des équipes les plus fortes qu'on ait rencontrées cette saison à ce moment-là. Et puis à Brest, alors là, moi, je veux bien en parler, mais il y a rien qui va, quoi, du début à la fin. C'est-à-dire que Pereira da Costa, il s'arrache le tendon d'Achille, Medina, il prend un jaune, il n'a rien fait. Et ensuite, il y a 3 trucs, mais monstrueux. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un système vidéo qui permet de voir des choses que l'arbitre ne peut pas voir sur le terrain, parce que c'est un scandale absolu. Alors après, il ne faut pas pleurer là-dessus. On ne va pas faire toute la saison là-dessus, mais je trouve ça bien que le club le mette. De mémoire, Reims, en début de saison, le président avait un peu hurlé sur l'arbitrage. Il n'y a pas très longtemps, Camboiré aussi. Il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de l'arbitrage en France. Alors, c'est pas nouveau, mais là, le match d'hier, c'est vraiment incroyable. Il y a un joueur qui est quand même blessé, qui a fini aux urgences, et il y a même pas de carton. Enfin, je sais pas. Moi, je suis dépité, quoi. Mmh. Vraiment. Au-delà du résultat et du contenu, parce que Lens aurait pu mieux faire, et puis, voilà, mais franchement, c'est honteux, quoi. C'est honteux.
Bah, ce sera jeudi. Merci, Norman, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt Norman.
Bonne soirée.
Salut, ciao Norman. Voilà, ce sera jeudi, 8e de finale de Coupe de France. Gibo, tu restes avec nous dans quelques instants. On évoque Lille qui aura son 8e de finale de Coupe de France. Ce sera à Lyon. Ce sera mercredi à 18h15 à vivre là aussi sur RMC. Ça, c'est pas mal comme match. Hein. Mm. Pas mal du tout également.
Et ça va falloir un excellent Lyon pour sortir Lille.
Ouais, c'est vrai. Et nous, on en reparle dans quelques instants.
Deux dirigeants, en fait. Deux types de dirigeants un peu interventionnistes.
Il y a un peu de tension dans les deux camps. Là. On va notamment évoquer.
Pourquoi vous n'enlevez pas les un peu de vos phrases?
Cette manie qui a oublié
les temps, mais toujours arrêtez avec le peu.
Jean-Michel un peu. Allez, à tout de suite sur RMC avec Daniel Riolo et Feu Gaudron.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jean Baumel est toujours parmi nous, toujours au stade de la Licorne, où Amiens a perdu ce soir face à Metz en 22e journée de Ligue 2. On évoquait Lens avec toi, Gibo, il y a quelques instants. Mercredi 18h15, Lyon-Lille, lui, autre 8e de finale de Coupe de France. On va évoquer l'OL, hein, d'ailleurs, supporter de l'OL, on vous attend en 32-16. Parlons de Lille d'abord, le LOSC qui s'imposait 3-1 à Rennes ce week-end, qui revient à 2 points des Bretons et des places européennes au classement de Ligue 1. Gibo, petite question avant ça, je t'ai posé la même sur Lens tout à l'heure, mais là aussi, comment Lille se positionne par rapport à la Coupe de France, sachant qu'il y a l'Europe en ligne de mire via le championnat aussi?
Bah, Coupe de France, alors on sait que Paulo Fonseca aime ses compétitions parce que il l'a gagné avec le Shakhtar, avec Braga, la Super Coupe avec Porto, tu l'avais dit Nico. Donc c'est une compétition qu'il aime bien, mais il dit voilà, il faut attendre d'arriver un peu plus loin. Bon, c'est sûr que s'ils arrivent à passer Lyon et puis forcément t'auras un gros qui va sortir avec Paris et Marseille, c'est sûr que le tableau il peut être intéressant pour lui pour la suite. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut c'est que Lille tienne physiquement et Lille surtout aime bien jouer contre des équipes qui sont pas en bloc bas. On l'a vu contre Rennes, on l'a vu, ça sera certainement le cas contre Lyon, ce qui devrait, on l'espère, en tout cas,
ça doit faire un très beau match. Hein.
Ouais, carrément.
Enfin, avec Lille, souvent les matchs sont bons, mais quand en face il y a une équipe qui veut jouer, c'est encore mieux.
C'est là tu te régales. Le coup à Rennes, on le sentait venir quelque part. C'était le match qu'il leur fallait pour se relancer. Et voilà, avec un entre guillemets un excellent André Gomes, parce qu'on en parle pas beaucoup de ce joueur, mais quand il est en forme et quand il est titulaire ou qui rentre,
ils ont quelques joueurs de classe, les Lillois. Pourquoi il était plus d'ailleurs titulaire, parce qu'il était moins bon?
Souvent blessé.
C'est son problème depuis
le départ.
C'est sûr que c'est un joueur d'un autre niveau là.
Et Ismaili aussi qui est blessé, mais aussi qui est un joueur dont on parle très peu, mais qui est très bon fort joueur, sur son
mais côté
gauche.
ils ont quasiment que des beaux joueurs de foot. Hein,
on parle souvent de David, Benjamin André ou José Fonte ou Chevalier ces derniers temps, mais André Gomes, c'est pas mal.
André Gomes, il a un petit côté Renato Sanchez hein, d'ailleurs aussi. Hein. Très souvent blessé là depuis pas mal d'années. Il se relance un petit peu. Non, je veux dire dans la fragilité. D'ailleurs, alors c'est physique. Et André Gomes, c'est même psychologique. Hein. Il avait avoué qu'au Barça, il était tombé en dépression. Il voulait pas sortir de chez lui.
Mais tu sais que c'est un aspect. Moi, quand j'ai vu Renato Sanchez tomber et fondre en larmes, parce que tu sens que le mec est à bout, il dit je vais jamais m'en sortir, je suis toujours blessé. C'est vrai qu'il est toujours blessé. C'est à se demander est-ce que son corps est vraiment fait pour le haut niveau? Peut-être que tout simplement son corps n'est pas fait pour ça. Je me souviens que pendant des années, c'est pas la même histoire. Mais personne ne voulait se dire, parce que le gars avait beaucoup trop de qualités, que c'était un joueur fabuleux, que Diaby et son corps n'étaient pas faits pour le foot. Comme à une autre époque, dans un autre domaine, puisque tu parlais de la psychologie, Gourcuff a fait deux bonnes années, mais il n'était pas fait pour le foot. Sa tête, lui, c'était pas son corps, c'était sa tête, n'était pas faite pour le haut niveau. Et tout ce que ça comportait. Quelque part, un type comme Ben Arfa, il a eu quelques saisons sur la 2/10 on va dire. Bah, pareil, sa tête était...
plus sa tête.
Ouais, aussi, pas
certains c'est le corps et parfois c'est la tête qui commande au corps.
Ouais,
c'était un peu les deux.
Sa tête
était pas faite pour le haut niveau. C'est tout. Et ça, il y a des joueurs de talent comme ça qui ont raté leur carrière à cause de ce genre de choses là. Et le pauvre Renato Sanchez, il est l'un dedans. Peut-être André Gomes, je sais pas. Vous le connaissez mieux que moi. S'il faut le mettre dans cette catégorie là, j'ai l'impression qu'il joue quand même plus quoi.
Après c'est vraiment psychologiquement où il a eu du mal à se remettre et à se remettre, mais c'est un très beau joueur hein,
c'est un joueur de classe, c'est sûr,
qui a un style totalement différent effectivement de celui de Renato, mais qui est un très beau joueur également. Autre thème également concernant le LOSC, Gibo. Alors il y a une info qui est sortie hein, après la rencontre selon laquelle Paulo Fonseca et Olivier Létang auraient eu une discussion un peu tendue avant le match.
Ils l'ont eu, elle a été assumée.
Paulo Fonseca, il a répondu à cela en conf d'après-match, c'est assez court, c'est assez bref, assez expéditif, mais peut-être que ça veut dire quelque chose.
Je suis ici pour parler des joueurs. Si nous avons un problème, nous devons parler à la maison.
Voilà, il y a tension entre Paulo Fonseca et
Olivier Létang.
Ils sont la salle en famille.
Mais c'est pas mal parce que en fait, ils s'embrouillent avant le match et ça donne une victoire. Alors est-ce qu'il y aurait eu victoire, ça n'avait pas eu embrouille. Ça, on ne saura jamais.
On va pas encourager ça.
Mais non, mais en fait, il faut rappeler quelque chose de très important, c'est que Paulo Fonseca a été nommé par Alessandro Barnaba, qui est l'un des actionnaires de Merlin Partner, qui est propriétaire du LOSC. Et souvenez-vous, lors du premier mercato. Sylvain Armand, la veille de la clôture du mercato d'été, avait dit chez des confrères diffuseurs, avait dit bon bah c'est terminé pour le mercato. Et après le match, on dit à Paulo Fonseca, selon Sylvain Armand, le mercato est terminé. Bah dit non, moi j'attends encore deux joueurs. Et le lendemain, tu as eu André Gomes et Adam Ounas. Donc il y avait déjà eu une
C'est-à-dire que les centres de décision sont pas forcément là où on pense qu'ils sont.
Bah, c'est des fois c'est un peu compliqué parce que tu par exemple Ismaili, on sait très bien qu'il était au Shakhtar, donc c'est Paulo Fonseca qui l'a fait venir. Voilà, je pense qu'il y a une vraie discussion entre Olivier Létang, mais il y a aussi le côté pour Olivier Létang de rendre des comptes aussi à Merlin Partners au niveau économique. Lui, ce qu'il veut, c'est redresser le club parce que c'est vrai qu'il y avait des grosses difficultés après le passage de Gérard Lopez. Et donc lui, par exemple, sur le dernier mercato, et c'est là aussi l'un des éléments qui a un petit peu déclenché eh bien cette mésentente avant le match de Rennes, c'est qu'il voulait absolument un latéral droit et puis même un joueur offensif, sauf que Olivier Létang n'est pas fan du mercato d'hiver. Il a dit clairement Paulo Fonseca n'a pas eu de joueur pour se renforcer, et c'est vrai que latéral droit pour être la doublure de Diakité, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui veut bien être numéro 2 pour finir une saison. Donc c'est vrai que voilà, et je pense qu'il y a aussi l'aspect économique. Au plus fait d'économie Olivier Létang, au mieux c'est pour ses stats, hein. C'est vrai que j'ai été au vœu du club. Bon, bah voilà, c'est un aspect pour lui très important. Donc c'est vrai qu'il y a le côté sportif où Paulo Fonseca veut remplir la mission, parce que faut être clair, hein, ils disent oui, on veut faire la meilleure saison possible. Non, ils veulent être européens. S'ils sont pas européens, ça serait une déception, et surtout un objectif raté. Donc ils en sont pas loin. Puis cette frustration, vous le voyez à chaque fois que Lille est aux portes de faire la bascule, ils n'arrivent jamais à basculer dans le top 5 depuis le début de saison. Voilà. Donc on sent qu'il y a un peu de tension. Il y a aussi il y a eu quelques petits reproches en interne sur le nombre de blessés. À un moment, il y avait une liste assez importante, hein. Bon, là ça va un petit peu mieux, il y a Ounas, mais à un moment il y avait une liste, c'était Bamba, André Gomes, Ounas, Ismaili, ça c'était il y a 10 jours, Jonas Martin. Voilà, le jeu aussi de Paulo Fonseca demande beaucoup d'énergie aux joueurs, et il y a un peu de casse de temps en temps. Donc il y a aussi un peu de ouais, tension à plein niveau. Non. Mais voilà, mais le jeu de Lille est intéressant, Lille n'est pas mort, et Lille peut encore faire des choses vraiment très intéressant sur la suite de cette saison.
Gibault, oui, c'est pas le.
Ce qui est intéressant, Gibault, c'est quand même toujours l'attitude des dirigeants. Létang fait du bon boulot, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ce côté interventionniste qui a déjà été souligné par d'autres coachs, il doit être quand même pointé du doigt. C'est-à-dire que tu as des présidents plus ou moins interventionnistes, lui en fait partie, parfois à mauvais escient. Sylvain Armand aussi, on s'en souvient sur ses descentes près des arbitres. Moi, je pense que les dirigeants devraient, déjà par rapport à leurs propres joueurs, par rapport aux supporters, avoir parfois une attitude plus responsable. Là, c'est encore différent. Mais je pense que pour un coach, c'est particulièrement compliqué, et surtout que ça se passe bien. Parce qu'après, il peut y avoir des moments plus compliqués, mais même quand ça se passe mal, d'être toujours un peu collé comme ça par un président qui a une forte envie de communiquer et qui a une forte envie d'être un peu le calife à la place du calife, quoi, d'être celui à travers qui tout passe médiatiquement et sportivement. Donc je peux comprendre que pour un coach...
Il veut tout contrôler, c'est son gros défaut.
Oui, ouais, je pense que, je sais pas si ça évoluera, parce que finalement c'est un jeune dirigeant, Létang, qui a déjà fait plein de choses, et moi, on l'a déjà eu ici, on a déjà parlé de plein de choses hyper positives, y compris sur le travail, le recrutement, etc., dans les différents clubs où il est passé, mais en l'occurrence, je pense que ça, c'est quand même un des défauts majeurs, ou que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs, des dirigeants, et à Lille notamment, puisque ça a déjà été montré et pointé du doigt. Et je pense que Fonseca, qui s'est quand même imposé à la vitesse grand V, qui a réussi à très très vite mettre en place un jeu différent, un état d'esprit différent, c'est pas simple. Donc c'est vrai que d'être un peu... je peux comprendre que l'entraîneur ait besoin d'espace vital.
En tout cas, ce serait dommage que cette embrouille devienne une vraie affaire, parce que d'abord, je pense qu'Olivier Létang est un président qui connaît bien son domaine, le foot, il sait où il veut emmener un club, il a l'exigence nécessaire qui est utile dans un club de foot. Et je ne crois pas qu'il ait déjà eu un entraîneur du niveau de Fonseca. Donc ce serait dommage qu'il se brouille avec lui et que Fonseca ne veuille plus travailler avec Olivier Létang.
J'ai l'impression que l'abcès était crevé quelque part avant Rennes, parce que c'était beaucoup de frustration.
Je l'espère, parce que j'imagine...
Il y a un élément quand même, je parle sous ton contrôle également, Gibault, mais le fait que Fonseca sente qu'il a le groupe et les joueurs avec lui fait qu'il n'a pas envie de partir non plus.
Ouais, donc
là,
bien sûr.
Là, comme dirait l'autre, ils se sont dit les choses.
Les joueurs, c'est pour ça, quand Olivier Létang veut intervenir devant le vestiaire, je peux comprendre que l'entraîneur n'ait pas vraiment envie. Après, si l'entraîneur est d'accord, je vois pas non plus pourquoi ce serait forcément quelque chose à pas faire.
T'as pas été prévenu.
S'il a pas été prévenu, c'est ça en fait, c'est s'entendre sur le fait de faire ou pas faire. Mais que le président intervienne pour rappeler les objectifs du club ou pour dire deux trois trucs, pourquoi pas, surtout quand c'est un président qui en plus connaît vraiment le terrain parce qu'il y a été. Donc il y a pas de raison que ça se fasse pas. Mais il faut que ça fasse en bonne entente et pas que ça termine en éventuel embrouille. Parce que je le répète, Lille a un super coach et ce serait vraiment dommage de le perdre, quoi.
Puis Daniel, tu l'as répété plein de fois. Je t'ai entendu par rapport à Nice. Quand tu vois le nombre de matchs où ça joue bien, où t'as perdu, notamment contre Lyon, contre Nice.
Ouais.
Ça aussi, je peux te dire que tu le sens à travers Fonseca et ben Olivier Létang. Ils font le boulot. Mais
au bout d'un moment, ça peut taper sur les nerfs.
C'est clair. Et ça joue énormément sur la tension
calme, hein.
qui était présente ces dernières semaines.
Ouais, c'est ça.
Gibo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rentre bien.
Un grand plaisir.
Merci, à très vite. Gibo, bisous. Gibo, voilà, je vous rappelle, ce 8e de finale de Coupe de France, 18h15, ce sera mercredi entre Lille et Lyon. On l'évoquera l'OL tout à l'heure. Supporter de Lyon, on vous attend en 32-16. Dans quelques instants, avis tranché de Daniel sur Christophe Galtier, les déclats de Galtier sur Messi, sur le jeu du Paris Saint-Germain après la victoire contre Toulouse, supporter du PSG. On vous attend en 32-16. Il y a pas mal d'infos d'ailleurs qui concernent le Paris Saint-Germain. Et puis on évoquera l'Olympique Lyonnais, on écoutera Laurent Blanc et Alexandre Lacazette qui étaient en conférence de presse aujourd'hui du côté de Lyon. Nous, on vous dit à tout de suite avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo. On vous attend en 32-16.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.
Gauche, droite, gauche, gauche.
Tu fais quoi là ?
Écoute, je swipe sur l'appli Betson. Avec leur combi express, je passe en revue les matchs chauds et je valide mon pari. Et le bonus, si ça gagne pas, je récupère 10% en crédit. C'est simple, c'est juste, c'est Betson. Télécharge l'appli Betson et reçois jusqu'à 100€ de bonus de bienvenue.
Voir conditions sur le site. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.